Vous écoutez
RMC.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, la nuit de l'After qui continue, bien sûr, comme tout le soir, en direct des États-Unis, en direct de la Coupe du Monde, en direct de notre studio new-yorkais. Nous sommes sur RMC en direct, nous sommes également sur la chaîne YouTube de l'After Foot. Vous pouvez vous connecter jusqu'à 1h du matin. L'After est là, première radio de France toujours et plus que jamais. Daniel Riolo est avec moi. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Maxime Chanot également est là. Salut Max.
Salut à tous.
L'événement ce soir dans l'After, c'est donc le premier qualifié pour les huitièmes de finale. Le Canada qui vient d'éliminer l'Afrique du Sud. On va analyser le match ensemble. On aura également Pierre Barrieux. Il travaille au Canada depuis plusieurs années. Il connaît bien le football local. Sur l'occasion d'un gros plan sur le foot canadien qui n'avait jamais été en huitième de finale de Coupe du Monde. On fera ensuite le bilan de la première phase de la Coupe du Monde en mode after. On n'oublie pas l'actu de l'équipe de France. Tout à l'heure, nous sommes à 48 heures du match face à la Suède. Et puis l'after donnera également son avis sur l'Algérie-Autriche de la nuit dernière. On n'a pas eu l'occasion d'y revenir, nous. Tout à l'heure, Walid Acharchour et Kevin l'ont fait. On le fera nous aussi tout à l'heure. Et puis vous entendrez Romario également d'ici 1h du matin, qui parle de l'équipe de France, de l'équipe du Brésil, entre autres choses. Voilà, le 32-16 est ouvert. N'hésitez pas à nous appeler. On vous attend également sur le numéro WhatsApp de l'After, 0612 424 424. Voilà. Bon, on pensait avoir une prolongation et finalement les Canadiens, qui ont eu plus d'occasions, hein, au final se sont qualifiés, les gars.
Ils ont fait parler le mérite dans les arrêts de jeu, mais vraiment à ce moment-là. Pendant longtemps, je me suis demandé dans ce match si véritablement une équipe méritait plus que l'autre, parce que, attention, les Sud-Africains ont montré des choses, et bien plus de choses que dans leurs deux premières rencontres. Je ne veux pas dire que c'était équilibré. Oui, le Canada était légèrement devant dans ce match. Et oui, ça ressemble à une victoire méritée. Mais les Sud-Africains n'ont pas été ridicules, n'ont pas fait que subir. Ils n'ont pas été qu'une équipe passive, pas du tout. C'était même plutôt un match ouvert. Alors, certes, avec pas mal de carences techniques des deux côtés, on n'était pas dans un match de haut niveau. On était dans ce que moi j'appelle la Ligue 2 mondiale qu'a voulu inviter Infantino dans cette Coupe du Monde. Ça plaît à certains. Pour moi, c'est un produit qui continue de se dégrader, d'être médiocre. Mais ça fait plaisir au Canada. Je rappelle quand même que, pour être bien clair, hein, quand on va utiliser les adjectifs, quand on va qualifier la victoire du Canada et qu'on va dire c'est historique pour le Canada, ils sont en huitième de finale de la Coupe du Monde. Le Canada a affronté jusque-là la Suisse, le Qatar, la Bosnie, l'Afrique du Sud.
Mais c'est pas...
Bon, ok, très bien. Voilà, c'est une autre histoire. Voilà.
Maintenant, ils ont perdu contre la Suisse d'ailleurs.
Ouais. Non, on utilise beaucoup les termes, on se gargarise de termes très exagérés comme historiques. Moi, je pense qu'on a tout dévalué et que ça ne m'étonne pas, puisque nous sommes dans une époque qui aime glorifier la médiocrité plutôt que l'élitisme. Et c'est exactement là-dedans qu'on est, quoi. Mais très bien, on a vu plutôt un match agréable.
Un match agréable.
Petite Ligue 2 mondiale, quoi.
Ouais, c'est un bon terme, j'aime ça, Daniel. Petite Ligue 2 mondiale, ouais.
Tranquille.
Voilà. Ouais, non, match équilibré, hein. Les Africains, les Sud-Africains en tout cas, qui ont eu la possession par rapport aux Canadiens, eux qui ont un peu plus frappé au but. Je crois qu'on a 7 tirs cadrés à 1. Moi, bien évidemment, je suis content de voir les Canadiens qualifiés, parce que déjà, de 1, j'ai pas mal de copains dans cette équipe qui vont jouer avec moi, et notamment Eustachio, par exemple.
Ah ouais. À Los Angeles, vous avez joué ensemble?
Exactement.
Avec qui, Max?
Eustachio.
Ah, celui qui a marqué?
Ouais, celui qui a marqué. Maxime Crépeau aussi, le gardien de but. Schaffelsberg, bon, qui est arrivé quand moi je suis parti. Donc il y a pas mal d'anciens coéquipiers et surtout des joueurs de la MLS. Donc ça met en valeur la ligue, une ligue que je connais très bien et que j'essaie de mettre en valeur justement à chaque fois que vous essayez de décrier, mais que j'essaie de défendre. Non, mais plus sérieusement, non, je suis aussi content de voir qui est organisatrice, en tout cas, de la Coupe du Monde continuée. Walid l'a dit très justement, je pense que c'est bien pour la beauté de la Coupe du Monde. Et puis ça montre aussi que le football évolue un peu partout. On a eu tendance pendant longtemps à mettre en avant les nations européennes, les nations sud-américaines. Puis aujourd'hui, tu te rends compte que en Amérique du Nord, tu as des équipes qui tiennent la route, que ce soit les États-Unis ou que ce soit le Canada, même le Mexique, là, qui ont fait une très belle phase de poule en gagnant leurs trois matchs. Et puis c'est pareil du côté de l'Afrique, on y reviendra un peu plus plus tard. Donc moi, je suis content en tout cas de les voir en huitième de finale. Non, là Mexique, où je suis d'accord avec toi.
Le Mexique, c'est une nation historique du foot. Le Canada, c'est nouveau.
Ouais, mais bon, donc, quand tu regardes aujourd'hui les qualifs en groupe, c'est la seule équipe avec la France à avoir terminé avec 9 points et l'Argentine, pardon. Donc ça fait 3 équipes. Quand tu regardes que des équipes comme l'Espagne, le Brésil ont totalisé uniquement 7 points, alors bon, tu vas me dire que c'est
anecdotique. Il faut voir le Canada, ça montre quand même que dans,
il y a une évolution
dans
du foot.
Ce pays, le foot est en train de devenir de plus en plus important. Nous, on a grandi avec l'idée que le Canada, il ne jouait même pas au foot. Oui, bah il ne tapait même pas dans le ballon.
Ouais, ouais. Mais quand
donc
tu regardes
aujourd'hui,
un petit peu...
il y a quand même eu quelque chose qui a été mis en place pour créer quelque chose. Ouais. Et comme tu l'as dit, maintenant, il y a des vrais joueurs.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et quand tu regardes un petit peu leur quatuor d'attaque, on a Jonathan David, on a son homonyme Promesse David qui joue à l'Union Saint-Gilloise. T'as Kyle Larine aussi qui est un super joueur. T'as Buchanan qui est un joueur de Villarreal. Enfin, je veux dire, il y a quand même une profondeur de banc. T'as quand même individuellement du talent. Et aujourd'hui, ils le montrent. Ils ont l'opportunité, en tout cas, de se montrer dans cette Coupe du Monde. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas été ridicules.
La star de cette équipe qui ne l'est plus parce qu'il est tout le temps blessé. Davis, ouais. Mais c'était lui le grand leader normalement.
Ils n'ont pas eu 9 points, le Canada.
Je parlais du Mexique.
Ah, tu parlais du Mexique.
Non, au contraire. D'accord. Justement, j'allais y venir. Le Canada qui sont presque, enfin qui ont pu s'en vouloir parce qu'en perdant contre la Suisse, justement, parce que le tableau était presque tracé. S'ils gagnaient contre la Suisse, ils pouvaient continuer à jouer chez eux au Canada. Exactement. Et donc le fait d'avoir perdu contre la Suisse,
ils sont allés
2-1. Ils ont dû être délocalisés à Los Angeles. Donc c'est un petit peu le point négatif pour ces Canadiens, parce que j'imagine que pour tous les joueurs, c'est toujours top de pouvoir jouer une Coupe du Monde.
Canada
devant leur famille.
Pays-Bas-Maroc. Le vainqueur de Pays-Bas-Maroc.
Ok, bah donc logiquement, l'histoire s'arrêtera là, en huitième.
Bon, qui sait? Jamais hein, sur un match. Mais non, je suis content en tout cas de voir une nation nord-américaine montrer un beau visage pendant cette Coupe du Monde, et encore plus le fait qu'ils organisent la Coupe du Monde.
Il faudra compter dans ces 16e que tout le monde nous survend le nombre de choses pas logiques qu'on verra au final.
C'est-à-dire par rapport aux équipes qualifiées?
Oui, j'ai sur les 16 matchs, je me suis dit qu'il y en avait 6 ou 7 que je peux qualifier d'indécis. Le reste sont des matchs qui sont, pardon, Pays-Bas-Maroc, c'est indécis.
Ouais,
En revanche, Brésil-Japon, ça l'est moins pour moi, ouais. Tout comme France-Suède. Il faudra voir quand même les matchs, on va dire, qu'on qualifiera de surprise.
Après,
je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup.
Daniel.
Oui, mais
et on a eu le meilleur exemple avec la Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier.
Ouais, mais Max, au moment où on te survend l'ouverture, le machin, tout ça, c'est des mensonges, en fait.
Non, mais je pense que sur ce point-là, sur ce débat-là, toi et moi, on est d'accord. Pour moi, c'est une bêtise absolue d'avoir voulu ouvrir cette Coupe du Monde à 48. Je me suis fait tomber dessus quand j'ai dit que l'Ouzbékistan n'avait rien à faire dans cette Coupe du Monde. Ou lorsqu'on regarde actuellement le classement des buteurs, où est-ce qu'on a déjà Haaland, Mbappé et Messi avec 3-4
buts. Messi, il est à 6 déjà.
Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est aussi dû à cette ouverture de Coupe du Monde, où est-ce que tu te retrouves avec des équipes qui, pour moi, n'ont pas le niveau d'être à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde doit rester c'est vraiment l'élite. Ça doit être une coupe d'élitiste. Et aujourd'hui, quand tu vois le Luxembourg, j'allais dire, l'Ouzbékistan.
Je sais pas s'il faut qu'on réouvre le débat là.
Non, mais il est important parce qu'aujourd'hui, si le Canada est en effet qualifié en huitième de finale, et je pense
que. Mais d'un côté, tu te réjouis que le Canada soit là, mais en même temps, si on suit ta logique, dans une Coupe du Monde élitiste que tu veux, il n'y aurait pas le Canada.
Bien sûr, on est tous d'accord.
Si, il y aurait le Canada à partir du moment où il se qualifie. Il y a pas de problème.
Bah, l'Ouzbékistan, ils sont qualifiés.
C'est dans la zone. Mais oui, l'Ouzbékistan, c'est pas. Moi, c'est pour ça que j'identifie pas les équipes si elles ont fait première. Moi, pour moi, c'est le nombre de tickets. T'as vu l'Asie, le nombre de tickets?
Bah, l'Asie, ils en avaient 9, ils en ont gratté un en barrage aussi, donc en théorie, c'était 8, mais bon.
8 tickets? Waouh, c'est énorme.
Ah, en fait, c'est philosophique. Certains veulent l'universalisme du foot et donner la possibilité à tout le monde de venir, et puis d'autres disent non.
L'universalisme du foot, en fait,
on veut que les meilleures équipes.
L'universalisme du foot, c'est qu'on joue au foot dans les pays et que tu participes à la Coupe du Monde via des qualifs. Mais c'est ça l'universalisme. Oui, l'universalisme,
là,
c'est pas
le cas, Daniel.
L'universalisme, c'est pas.
C'est la règle a changé, mais
c'est pas être représenté au moment de la phase finale pour te faire croire que t'appartiens à ce monde.
Moi, je pense qu'on a mis en place justement une compétition.
Mais de fait, maintenant, ils appartiennent à ce monde, en fait.
Oui, mais c'est exactement comme le bac. C'est comme le bac. Tu donnes le bac à 90% des jeunes et derrière, ils n'en font rien.
Ouais, ça devrait.
C'est pareil. C'est tout.
Oui, je ne sais pas si c'est comparable.
Mais si, de toute façon, c'est l'ère du temps. C'est la société progressiste.
À l'échelle de l'Ouzbékistan, tu as aussi les meilleurs de l'Ouzbékistan, donc c'est aussi une sorte d'élitisme à l'échelle de l'Ouzbékistan.
Mais on parle d'une Coupe du Monde, Gilbert. J'entends ce que tu veux dire. L'Ouzbékistan s'est qualifié, mais si c'est pour venir à la Coupe du Monde pour faire de la figuration, dans ce cas-là, n'appelle plus ça une Coupe du Monde. du monde.
Oui.
Et c'est
bon,
là.
Après, on a regarde créé... l'Écosse par exemple. Ouais. Qui a...
Mais je les mets exactement.
Des nations historiques du ouais. football.
Bah, historique, je suis pas sûr quand même. Mais c'était pas.
Bah si, l'Écosse.
Monde depuis.
Les Britanniques, c'est eux qui ont créé le jeu. Oui. Au board, t'as toujours le président de la Fédé écossaise. C'est vrai qu'ils décident des règles pour la terre entière. Là, ils sont nuls.
Mais bon, l'Écosse, moi, ils sont nuls aussi.
Au Coupe du Monde, on est d'accord que l'Écosse n'a jamais vraiment brillé. On a créé une compétition qui sert absolument à rien, où tout le monde se moque. Elle s'appelle la National League. Et ben, utilisons-la justement pour faire un peu
des National League ou des Danone Cup.
Voilà, exactement.
Bon, petite évaluation quand même, les gars. J'aimerais bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jonathan David?
Ah, je trouve mollasson depuis le début de la compétition.
Ah oui, c'est bizarre, non?
Moi, depuis le début de la compétition, je sens mollasson.
C'est censé être un des meilleurs joueurs en théorie du Canada.
Leader, mais
pour moi, même ce qu'il nous avait montré du côté du LOSC, voilà, j'avais du mal à croire qu'il pourrait passer. À l'échelon supérieur, il l'a montré. Hein, d'ailleurs,
non, mais là, il joue la Juventus et tout. Tu peux montrer que t'es un peu meilleur.
Ça lui a fait du bien ses buts là contre le Qatar, mais c'est vrai qu'en règle générale, lui qui avait le brassard de capitaine l'avant-dernier match avec le Canada, honnêtement, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et finalement, c'est presque plus fort
contre Promesse le Qatar. Gilbert, il s'entraîne deux semaines. Il y a possibilité qu'il marque sur un malentendu.
C'est vrai. Je l'ai vu courir, Gilbert. Je te l'ai dit. Et visiblement, par match, c'est 13 à 14
kilomètres. Une belle
foulée. Ah ouais, c'est
très belle foulée.
Ouais. Incroyable. Et puis, alors, il m'a fait un petit.
Le répète pas trop.
Non mais c'est vrai, il m'a fait un petit clin d'œil sur le côté pour dire je te laisse sur le côté. Ah, j'étais un peu vexé, Gilbert.
Ouais, mais il paraît qu'il avait dormi deux heures la nuit d'avant.
Non, pas du tout.
Selon mes informations.
Non, j'étais à 16 kilomètres de footing, Gilbert.
L'Afrique du Sud, les gars, je voulais en dire un mot quand même parce que bon, ils avaient mal démarré. Et alors normalement, si Hugo Broos respecte ce qu'il avait dit, eh ben c'est retraite. Il a 74 ans. Lui, le joueur emblématique d'Anderlecht. Bon, bref.
Il est temps de rentrer à la maison.
Donc,
une bonne cheminée, un livre.
S'il peut prendre Bielsa avec lui au passage. Hein, trois.
Non, mais. Je pense qu'il y a des. Oui, c'est vrai que. Bah, c'est peut-être.
Non, mais il est temps, tous ces entraîneurs.
Il y a tellement d'équipes, je ne sais plus, mais je ne sais pas si ce n'est pas les plus.
Tourner la page.
Il est temps, tous ces entraîneurs, ces sélectionneurs, ça fait 50 ans qu'on les voit dans le football aujourd'hui, voilà, laisser un peu la place au nouveau avec.
Quoi, pour toi, un entraîneur a une date de péremption?
Pour moi, là, un entraîneur a une date de péremption et tu l'as vu avec Broos, tu l'as vu avec Bielsa. Aujourd'hui, c'est des mentalités footballistiques qui, à mon avis, en tout cas, n'ont plus la place dans le football moderne actuel. D'autant plus par rapport à ce que tu es en train de voir avec toute la nouvelle génération d'entraîneurs qui arrivent. Sélectionneur, c'est un petit peu différent, mais quand je vois Jesse Marsh, par exemple, du côté du Canada, qui apporte, je trouve, beaucoup de fraîcheur à son équipe. Des mecs comme Hugo Broos, des mecs comme, je l'ai dit, Bielsa, parce qu'on a eu la chance de commenter l'Uruguay, c'était scandaleux, c'était catastrophique. Voilà, il est temps un petit peu là qu'on renouvelle cette vague d'entraîneurs et je trouve qu'on le fait déjà bien dans beaucoup de championnats locaux et en particulier en Ligue 1. Alors pourquoi pas avec les équipes nationales?
Jesse Marsh qui est canadien, qui est américain.
Américain, qui a brillé du côté des New York Red Bull. Qui est un très très bon entraîneur et je serais pas surpris de le revoir à terme.
Il était le coach de Thierry Henry.
En tout cas, ça a été le coach contre qui j'ai gagné quelques matchs. Ouais, si je l'ai fait. Il a été déçu deux trois fois contre moi.